matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Guerre froide en mer de Chine. Pékin accuse Washington de relancer la course aux armements après l'accord sur les sous-marins australiens. Un coup dans le dos aussi pour la France. Une scène de guerre hors norme dans ce journal, le témoignage glaçant d'une enquêtrice au procès des attentats du 13 novembre. Et puis, pour les journées du patrimoine ce week-end, on remonte le temps au château de Fontainebleau, résidence officielle de Napoléon Ier. Le palais consacre une exposition à l'empereur. Et le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Bataille navale et crise transatlantique entre la France et les États-Unis. Washington torpille le contrat du siècle et Paris n'a pas le cœur à la fête. Les autorités françaises annulent un gala prévu ce soir aux États-Unis. Soirée qui devait célébrer l'amitié franco-américaine.
Les États-Unis qui ont donc conclu hier un accord avec le Royaume-Uni pour fournir 8 sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie. Un pacte militaire pour faire face à Pékin.
Et justement, cette alliance irrite fortement la Chine qui dénonce une course aux armements. Un paradoxe pour ce pays qui a lui-même renforcé sa flotte militaire. Les précisions de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik.
La Chine possède déjà un arsenal impressionnant. 360 navires de combat, c'est plus que la flotte américaine. Pékin dispose notamment de 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et d'une quarantaine de sous-marins d'attaque, dont un prototype furtif ultra secret capable de plonger à 500 mètres de profondeur. Le budget militaire chinois est en constante augmentation et la marine en est une composante stratégique. Dans cette guerre froide des sous-marins nucléaires, la mer de Chine est une zone à haut risque. Alors la perspective de voir des sous-marins australiens épauler la marine américaine fait bondir la Chine. Dans une conférence de presse organisée hier à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé ces pays de provoquer une nouvelle guerre froide.
La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires dégrade gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire.
Et c'est l'Australie qui devrait en payer le prix. L'Australie et la Chine sont à couteau tiré depuis 18 mois. La plupart de ses correspondants de presse ont été expulsés ou ont fui la Chine. Une journaliste et un écrivain australien y sont emprisonnés et accusés d'espionnage. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
130 munitions tirées en à peine 2 minutes et 30 secondes. À 21h26, très précisément, le 13 novembre 2015, le commando meurtrier s'attaque aux terrasses.
13 morts, une soirée d'horreur dont les images ont été diffusées hier au 7e jour du procès. À la barre, cette enquêtrice de la brigade judiciaire, elle est arrivée parmi les premières ce soir-là sur la scène du crime.
On encaisse la nouvelle, enfin voilà, on est un peu tous abrutis. Et après, il faut se préparer et aller faire malheureusement les constatations sur ces scènes qui sont des scènes de guerre, qui sont même pas des scènes de crime comme on a l'habitude de voir, mais qui sont des scènes hors normes en fait. Il faut s'adapter effectivement à la démesure du nombre de victimes. La priorité, c'est identifier les kamikazes. Comme l'enquête avance, donc il y a également des perquisitions, des scellés à examiner pour trouver des traces et indices. Donc en fait, on est toujours dans l'action. Ça ne s'est pas arrêté le 13 novembre. Donc j'ai 25 ans de police. Oui, c'est la nuit la plus hors norme que j'ai vécue jusqu'ici.
Le témoignage de cette enquêtrice au micro de Gladys Laffitte pour Europe 1. La journée d'audience sera consacrée aujourd'hui à la diffusion des images de la tuerie du Bataclan.
6h03, la suite de votre journal avec le premier tour de la primaire écologiste qui a débuté hier et déjà les premiers couacs. Accès au scrutin refusé pour une centaine de personnes, des inscriptions en ligne rejetées à tort par l'algorithme.
Et parmi les sujets qui pourraient départager les candidats à la primaire, il y a celui des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, un chantier traîne depuis 10 ans et crispe désormais tous les acteurs. Sandrine Prioul les a rencontrés pour Europe 1.
Il est temps que Paris nous écoute.
L'appel du député Marc Le Fur pour enterrer ce projet de 62 éoliennes en mer qu'il qualifie de plus cher d'Europe, mais certainement moins écolo d'Europe. Un projet qui, hormis les élus écologistes, ne trouve plus vraiment d'avocat. Alors le député des Républicains s'en remet à Emmanuel Macron.
Ce projet, même les études préalables ne sont pas satisfaisantes. On est à quelques mois d'une grande échéance pour notre pays. Ce sujet, il est au niveau du président de la République.
Des éoliennes en pleine zone de pêche à 16 km des côtes, quand les Anglais ont opposé les leurs à 100 km. Des foreuses qui se heurtent à une roche bretonne plus dure que prévu. Certains élus auparavant engagés dans le projet y voient maintenant un gâchis économique. Et pour le pêcheur Grégory Le Droumaguet, c'est un gâchis pour la biodiversité.
On a passé beaucoup de temps et aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même assez tendue dans nos relations avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire. En tant que chargé de concertation sur ce dossier, quand je vois un peu où est-ce qu'on en est, je me dis, bon, il y a vraiment un constat d'échec.
Et alors que l'État observe de très près l'évolution des tensions sur ce dossier, craignant déjà un bras de fer à la Bretonne, ici, certains se rappellent que leur dernier combat n'a pas été vain et veulent, après l'abandon du portique écotaxe, l'enterrement de ce projet éolien.
Le reportage de Sandrine Prioul dans la baie de Saint-Brieuc pour Europe 1.
Les journées du patrimoine, c'est ce week-end et parmi les lieux à découvrir, le château de Fontainebleau.
Et ce palais, c'était l'une des résidences de Napoléon Bonaparte. En 2021, année du bicentenaire de sa mort, le château consacre une exposition à l'empereur en partenariat avec Europe 1. Suivez l'heure d'Autriche, elle nous ouvre les portes.
Le parquet craque sous les pas. Tous ces couloirs, Napoléon les a empruntés. À Fontainebleau, l'empereur était presque un simple châtelain. Il y a fait 3 séjours d'un mois, explique Jean Vitet, le conservateur en chef au château.
Le château n'avait pas les rigidités des bâtiments parisiens et la solennité des bâtiments parisiens. Il avait l'impression ici, tout en étant au milieu des autres, d'être tranquille chez lui et que tout le monde ne le surveillait pas à chaque instant.
Napoléon n'aime pas les lits solennels. Il fait installer un lit pliant en acier, comme sur le champ de bataille. Et contre l'avis de ses architectes, Percier et Fontaine, l'empereur tient à ce que certains objets dans sa propre chambre restent modestes, ajoute Marie-Christine Labourdette, la présidente du château.
Vous verrez à côté un guéridon extrêmement simple en acajou, sur lequel l'empereur déjeunait et travaillait une partie de la journée. Et quand Fontaine et Percier lui disent « mais on pourrait peut-être le décorer un tout petit peu », etc., l'empereur lui dit « mais pourquoi faire ? Il est parfaitement bien comme ça ». Et donc cette espèce à la fois de volonté de faste et de simplicité de l'homme est quelque chose que je trouve très touchant.
Le château de Fontainebleau est aussi le lieu où Napoléon abdique en 1814 et où il fait solennellement ses adieux à ses soldats dans la cour du Cheval Blanc.
Une visite guidée signée Laure d'Autriche pour Europe 1. Et cette exposition, vous pourrez la découvrir jusqu'en janvier prochain.
Merci beaucoup Romain Oquet, on vous retrouve à 7h30.